Quelle horreur cette peinture, c'est monstrueux. Bon nombre de nos expressions ont recours au substantif monstre et à l'adjectif monstrueux. Comme rappelé ici, monstre est d'une part attaché au verbe latin monstrare, montrer, désigner. Le monstre est l'être qu'on pointe du doigt à cause de sa singularité. Il est celui qui est rare, qui a une anomalie quelconque. Utilisé pour effrayer les enfants dans les contes, son apparence renverse les codes et brouille toute délimitation connue du corps humain tel qu'on le conçoit. Qu'il soit double, bisexué ou hybride, celui que l'on nomme monstre n'est plus seulement considéré comme un sujet d'étude dédié aux anatomistes. Il est maintenant recherché, représenté, mis en jeu par la science et surtout par ce qui nous intéresse ici, par l'histoire de l'art. En ce mois d'Halloween, plongez au cœur du pays des êtres hybrides et autres monstres. L'art n'échappe pas au paradoxe. Si jusqu'au XVIIIe, les artistes représentent surtout des corps assez éloignés de la réalité, correspondant à des canons idéalisés, référence directe à mon épisode 8, il est possible d'y trouver aussi des personnages hors normes, mettant en avant des corps possédant une anomalie physique ou une difformité. Ce genre d'individus peuplent les mythologies antiques, nordiques ou encore asiatiques. Au Moyen-Âge, ces humains hybrides ornent les manuscrits enluminés et les bestiaires. On retrouve ces figures dans les catalogues de prodiges au XVIe siècle. Elle captive alors un public encore plus large, à une époque où se développe plus largement l'imprimerie. Cette obsession à compiler les êtres infirmes et difformes est au cœur de la Renaissance, époque où en outre on fantasme sur les peuples sauvages. L'étude de la place du monstre humain dans la pensée et la société des XVIe et XVIIe siècles interroge notre regard sur ces déviances. Ainsi, l'être différent est repoussé, mais reste l'objet d'une quête. Le monstre demeure un noyau de l'imaginaire, une source iconographique inépuisable pour les artistes. Ces corps hybrides monstrueux peuvent être démoniaques, hideux, terrifiants ou parfois totalement caricaturaux et drôles. L'imagerie grecque est peuplée de figures étranges, divinités majeures ou mineures, personnifications, monstres terrifiants, mêlant à la fois l'humain et plusieurs espèces animales. Chaque figure a rapidement pris une apparence visuelle résumant symboliquement son caractère et son rôle. Au début du 7e siècle avant Jésus-Christ, dans la peinture des vases apparaissent des monstres issus du récit oral, luttant contre les héros. Le centaure Nessos, les gorgones, la chimère deviennent des personnages à part entière de l'imagerie mythologique. Parallèlement, il existe aussi des sphinges, griffons ou satyres que l'on retrouve en frise ou motifs ornant les vases. Allégorie du désordre, la gorgone méduse au regard qui pétrifie, le minotaure dans son labyrinthe, la chimère ou le sphinx de Thèbes ne seront vaincus que par des héros, parfois aidés des dieux, dont les exploits libéreront ainsi la communauté. L'héritage de ce riche répertoire figuré est encore présent dans notre imaginaire actuel. Illustrant parfaitement la thématique du corps hybride mi-humain, mi-animal, la sirène est très souvent représentée dans la mythologie grecque, sous un aspect cependant différent du stéréotype véhiculé par l'imagerie Disney. Sur ce célèbre vase grec à figure rouge illustrant l'épisode mythologique du chant 12 de l'Odyssée d'Homère, on voit Ulysse, représenté debout et attaché au mât de son navire pour ne pas succomber au chant mortel des sirènes. Ces dernières, au nombre de 3, sont représentées comme des êtres à corps de rapace et à tête de femme. 2 autres sont perchés sur des nuages, la dernière pique vers le navire d'Ulysse. Enfin, le long du flanc du navire se déploie une ligne de 4 marins, ramant aux ordres d'un timonier assis à l'avant du navire. À la fin du Moyen-Âge, êtres hybrides et figures grotesques prolifèrent dans les livres et les images pour atteindre dans la peinture de Jérôme Bosch ou de Grunewald un degré inédit d'inventivité plutôt macabre. Dévoration, frénésie, sexualité, violence et mort, tous ces caractères communs aux créatures maléfiques visent à mettre au jour la nature de l'humain tel qu'il est vraiment. On peut s'étonner parfois de trouver des dragons ou des griffons au niveau de l'architecture et des gargouilles sur les édifices religieux, mais il y a bien une raison à cela, c'est pour repousser le mauvais œil et les esprits malins à la porte de la maison de Dieu. En revanche, c'est plutôt dans le décor marginal des livres avec les drôleries que le monstre se renouvelle de manière spectaculaire. On retrouve cet esprit bizarre et démoniaque dans la tentation de Jérôme Bosch, déployée cette fois sur les 3 panneaux d'un triptyque, avec une force d'invention exceptionnelle pour l'époque, à savoir le XVe siècle. C'est avec le volet droit du Jardin des Délices que des sommets sont atteints dans le répertoire des créatures bizarres. Quel monstre plus sinistre en effet que cet homme arbre moisi, dont le corps de forme ovoïde s'ouvre au niveau du postérieur, tandis que ses 2 jambes en forme de tronc s'appuient sur de drôles de barques. Sa tête est surmontée d'un plateau circulaire, où l'on voit une ronde de femmes qui, au son d'une cornemuse, entraînent chacune un damné par la main. Partout aux alentours, les démons entreprennent les réprouvés, acteurs d'un monde dominé sans partage par les forces sataniques. La ruine, le désordre, la déchéance sont omniprésents. Le macabre, l'érotisme et le ridicule s'entremêlent. Ce sont des disproportions et des inversions dans les rapports de grandeur, des croisements avec des animaux libidineux, des êtres innommables portant divers objets comme des écharpes, entonnoirs, turbans, affublés de pelages, de carapaces, d'écailles et d'organes que traversent tout à la fois des couteaux et des flèches. Parmi les inventeurs de monstres que Bosch a inspirés, Peter Bruegel est le plus fécond. Il partage ainsi avec son grand prédécesseur une fascination enjouée pour les combinaisons les plus étranges. Dans une composition gravée par Peter van der Weyden, La chute du magicien, Bruegel unit allègrement des parties d'insectes, d'oiseaux, de poissons et de reptiles avec des casques, des épées et des lances. À travers ce tableau, il prévient que les effets de la sorcellerie peuvent se retourner contre celui qui en use. La sculpture connaît aussi son lot de créatures hybrides. Un bestiaire fantastique se cache depuis près de 450 ans dans le Parc des Monstres, un jardin effrayant situé en Italie, construit par le prince Vicino Orsini. Chantier colossal qui dure plusieurs dizaines d'années entre 1550 et 1580, le parc de Bormazzo renferme au creux d'un labyrinthe des créatures sculptées dans la pierre, toutes plus monstrueuses les unes que les autres. Vous pouvez croiser tour à tour un ogre féroce à la bouche démesurée, un cheval ailé ou encore un chien à trois têtes. Une de mes œuvres préférées est bien une sculpture de monstre, qui plus est représentant une femme. Le buste de la Méduse de Gian Lorenzo Bernini, réalisé vers 1648. Est plus réel que n'importe quelle représentation picturale, car réalisée en trois dimensions. Ainsi, les serpents sur sa tête ont l'air de jaillir, prêts à vous mordre, et l'effet monstrueux impacte beaucoup plus celui qui la regarde. C'est peut-être aussi pour cette raison que la sculpture contemporaine s'est beaucoup plus développée au XXe siècle, empruntant ainsi des thématiques différentes, véhiculant des messages en accord avec la société actuelle. Mais peut-on vraiment établir une ou des typologies du monstre dans l'histoire de l'art? Contrairement à ce qu'affirmait Descartes, il ne suffit pas de décrire les monstres pour les comprendre ni pour les classer. Comme ils sont de nature hybride, polysémique et polymorphe, ils ne se laissent jamais enfermer dans des catégories fixées une fois pour toutes et ne cessent de varier en fonction du contexte dans lequel on le représente. Prenons un exemple plus parlant. Le troll dans la mythologie nordique est tout à fait identifiable de par son apparence massive et pas franchement attirante. Cependant, il ne possède pas la même signification partout. Martial Guédron, professeur d'histoire de l'art à l'université de Strasbourg, a écrit un livre sur les figures des monstres que je vous recommande dans la biblio. D'un côté, il y a des courants artistiques au sein desquels les monstres sont beaucoup plus présents qu'ailleurs, car ils permettent de donner corps à une certaine vision du monde, qu'elle soit onirique, tragique, grotesque ou ludique. C'est le cas du mouvement du romantisme. D'ailleurs, à ce sujet, un catalogue d'expositions sur le romantisme noir au musée d'Orsay est paru en 2013 aux éditions Faton. Mais il y a également à travers les siècles des peintres, des graveurs ou des sculpteurs qui à eux seuls peuvent nourrir toute une iconographie fantasmée. Je pense par exemple à l'artiste issu du mouvement du romantisme espagnol, Francisco Goya, avec sa série des Caprices, où le corps humain prend souvent l'aspect d'un âne et où les traits des personnages sont souvent caricaturaux. Prenons l'une de ses œuvres emblématiques, Saturne dévorant l'un de ses fils, peint en 1820-1823. La figure de Saturne, les yeux révulsés tirant des lambeaux de chair de son fils, est digne des plus grandes scènes de cannibalisme. Dans un autre genre plus fantastique, le peintre symboliste français Odilon Redon ouvre une porte vers un monde parallèle du bizarre et de l'imagination. S'il peint une araignée, elle sourit, dévoilant une dentition parfaite. Et pourquoi une araignée ne sourirait-elle pas après tout? Il peint aussi des squelettes qui dansent, de drôles de boules de poils colorées à six jambes qui courent partout, des gnomes, des serpents à tête de femme. Il se joue des normes du corps humain et floute les frontières du bizarre et du réel. Ce n'est pas un hasard si le mot chimère s'impose comme l'emblème tutélaire du surréalisme au XXe siècle. Niveau représentation bizarre, fantasmée et cordiforme, on est plutôt bien servi. À commencer par Salvador Dali qui s'inspire de diverses mythologies. Avec sa gouache le sphinx de Barcelone, on peut voir dans un paysage minéral une jeune femme à corps de lionne entourée d'ossements. Max Ernst, de son côté, jongle avec les inspirations. On peut voir tantôt une créature géante colorée à tête d'oiseau courir dans l'ange du foyer, ou bien une chimère. Lion par devant, chèvre par le milieu, serpent par la queue. Côté photographie, je voulais à tout prix vous parler de la photographe Diane Arbus. Elle a capturé dans la prude d'Amérique des années 60 et 70 ses rencontres avec des frics. Attirée par la singularité des nommés monstres, elle exposa aux yeux du monde ceux qui d'habitude sont relégués dans l'ombre, car différents des autres, ou partiellement mis en lumière sous les projecteurs comme phénomène de foire. Ces nommés monstres sont tout à la fois marginaux, transformistes, bêtes de cirque, qu'elle immortalisait de manière frontale, brutale, directe, sans mise en scène aucune. Comme par exemple ce géant faisant face à ses parents dans le salon familial, ou bien encore cet homme en costume à la pilosité extrême. Le cinéma a aussi pas mal diffusé ce genre de thématique des frics, notamment le cinéma d'Hitchcock ou de Fritz Lang. On peut aussi citer le film The Shape of Water, sorti en 2017, dans lequel le réalisateur choisit de filmer une scène de sexe entre un monstre aquatique et une jeune femme. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir les rapports entre sexualité et monstre, cela mériterait de faire un épisode complet là-dessus, mais je m'égare. Comme vous l'avez compris, le corps monstrueux fait parfois beaucoup plus vendre que le corps que tout le monde s'attend à voir. Il y a bien un peu de voyeurisme là-dedans, si vous voulez mon avis. Le corps se fait donc miroir du monde. Le rapport entre société et corporalité prend ici tout son sens. Si la richesse et la diversité de l'iconographie du monstre lui a ainsi permis de traverser les époques, les récits véhiculés entre autres par les arts et la littérature des contes, le cinéma à sensation, c'est surtout la révolution au niveau scientifique qui va précipiter le renouvellement de la figure du corps monstre. On constate qu'un énorme précipice s'ouvre à la fin du 19e et au début du 20e. On ne peut plus représenter un corps comme on le représentait autrefois. Pourquoi ? Je cite un certain nombre de faits et de découvertes scientifiques qui sont tous à peu près situés la même année, à savoir 1895. Les rayons X, la photographie, la téléphonie, mais également les premières théories neurologiques sur la façon dont le corps fonctionne, les premières études sur l'hystérie. Toutes ces nouveautés radicales, bouleversantes, laissent l'artiste complètement démuni. Il ne peut plus continuer à s'appuyer sur un corpus esthétique et à peindre ce qu'il faisait auparavant en s'appuyant sur le discours des anciens. Par la diversité de ses figures et de ses définitions, par une ambivalence dans les rires qu'elles suscitent, la monstruosité apparaît comme une énigme. Elle nous interpelle, mais son sens est obscur. J'aurais aimé vous parler de la représentation de la sorcière, des géants et de tant d'autres choses, mais il me faudrait au moins 2 heures d'épisode, donc je vous ai concocté une bibliographie spéciale monstre dont vous me direz des nouvelles. Devant de tels usages, il semble légitime de supposer que la figure du monstre humain a été particulièrement inspirante à une période qui a vu l'un des plus grands bouleversements intellectuels de l'histoire, mais aussi des conjectures qui ont marqué la littérature d'un imaginaire très angoissé. Pour moi, cet épisode, c'était vous montrer que le corps n'est pas forcément celui auquel on s'attend, avec une tête, un tronc, 2 bras, 2 jambes. Un corps peut aussi prendre différentes formes, être à moitié animal, végétal, voire minéral, posséder des capacités physiques insoupçonnées. La diversité, voilà ce que prône l'histoire de l'art. Je vous souhaite un très bon mois d'Halloween et on se retrouve très vite pour un tout autre épisode. À la prochaine !